au réseau Cogeco. Mario Langlois rencontre.
Quoi de mieux comme proposition d'entrevue cette semaine au cœur de l'hiver, au cœur des Olympiques d'hiver, de vous proposer une espèce de pause, de se tremper dans une ambiance estivale, bien que c'est encore à quelques semaines de nous, de vous parler de golf avec l'un des joueurs qui s'est imposé comme l'un des meilleurs au Canada au cours des dernières années, peut-être le meilleur et même le meilleur au Québec. Et il collabore avec nous aux amateurs de sport de façon occasionnelle. C'est un grand plaisir pour moi de l'accueillir dans ce cadre-là. Question d'en apprendre davantage sur lui, de le partager avec vous. Mon invité cette semaine et le golfeur Dave Lévesque. Salut Dave.
Allô Mario.
Bienvenue à Mario Langlois Rencontre. Je suis bien content de t'accueillir parce que c'est toute une histoire que la tienne qui a commencé dans le bas du fleuve, en Gaspésie en quelque sorte, là, loin des gros centres de golf. Hein?
Exact.
Qu'est-ce qui te destinait à jouer au golf?
Je sais pas. Je pars de loin. La saison de golf où j'ai grandi, au Bull Rock, un petit club de golf de 18 trous entre Rimouski et Matane. La saison de golf était à peu près de début juin jusqu'à fin septembre, donc très courte saison. J'ai souvent dit que je pars de loin, donc j'ai été loin, ça m'a permis d'aller loin dans la vie. Et puis, c'est ça, ça m'a amené jusqu'à ici aujourd'hui, mais ça a été une belle expérience.
Comment tu as fait pour devenir un des meilleurs joueurs au pays en partant d'aussi loin, Dave? Et parce que je pense pas que tu es passé par une académie ou encore même par une institution américaine. Là, il y en a plusieurs golfeurs maintenant qui vont étudier aux États-Unis pour parfaire leur golf. Est-ce que ça a été ton cas?
Non, du tout, du tout. J'ai appris qu'on pouvait aller jouer pour une université américaine, aller jouer au golf pour une université américaine lorsque j'étais à l'Université Laval à Québec. C'est la première fois que quelqu'un m'a parlé de ça, puis j'avais jamais entendu parler de ça. Moi, j'ai grandi, puis j'ai été au Cégep à Rimouski. Ça a été mon coin où j'ai parfait mon golf. Mais lorsque j'ai appris ça, j'étais à Québec, puis j'ai dit, oh mon Dieu, j'aimais ça, puis j'aurais aimé ça savoir ça. Peut-être le cours des choses aurait été différent, mais je regrette absolument rien du chemin que j'ai fait. Mais j'ai peut-être dû trimer plus dur que d'autres golfeurs à cause de ça.
Puis c'est peut-être pour ça que tu as eu du succès quelque part. On dit souvent que des fois, quand on a tout cuit dans le bec, peut-être qu'on apprend moins. L'adversité est nécessaire pour réussir quelque part. Et toi, tu en as eu là, à plusieurs étapes de ta vie, mais juste si on parle de golf proprement dit. Là.
Ouais, exactement. C'est... Je suis un autodidacte au golf. J'ai jamais eu de cours de golf en tant que tel. Je me suis toujours auto-corrigé. J'ai été chanceux de grandir un petit peu plus dans la génération des vidéos, des caméras vidéo. Donc, j'étais capable d'un peu de m'analyser, comprendre mon jeu. Puis c'est ce qui, selon moi, a fait une de mes forces, c'est que je comprends mon jeu, je me comprends techniquement. Puis je suis en mesure souvent de m'auto-corriger pendant une ronde de golf, ou ce que des fois quand on dit que la chaîne débarque pendant la ronde de golf, que là, commence à frapper des mauvais coups, ben en m'auto-corrigeant, je suis capable de me ramener sur le droit chemin, puis de pouvoir me sauver avec des rondes de golf, je vais dire me sauver avec un 69 au lieu de virer ça en 75, 76. Donc ça a fait partie de ma force, c'est certain.
De toutes les expériences que ton talent t'a permis de vivre, laquelle est la plus mémorable pour toi en matière de golf, Dave Lévesque?
Je vais peut-être te surprendre. Je vais dire, au mois d'octobre, l'année dernière, mon expérience de putting, le MSOP, de Major Series of Putting, c'est une gang de Montréal ici, Guillaume Bellan en tête, qui ont débuté ça. Ça fait peut-être un an et demi. Championnat mondial de putting. La grande finale était l'année dernière à Las Vegas. Et puis, c'est un parcours de 18 trous. C'était incroyable. Il y avait les meilleurs putters de la planète étaient là. Il y avait beaucoup d'Américains, beaucoup de Canadiens, mais aussi il y avait des joueurs internationaux et des Suédois. Donc, c'était un événement grandiose avec un calibre incroyable. Puis, j'ai eu la chance de participer à ça puis de me sauver avec la victoire là, pour un des tournois. Puis, c'est ça. Personnellement, c'est un de mes grands accomplissements que j'ai fait au golf.
C'est vrai que tu me surprends, puis en même temps, ben ce que tu me dis, c'est que il y a beaucoup d'autres avenues dans le golf que simplement focaliser sur la PGA américaine ou encore une fois sur le Champions Tour, le circuit senior pour lequel t'es pas éligible encore parce que t'es dans la jeune quarantaine. Donc, il y a beaucoup d'autres avenues dans le monde du golf pour que t'aies vécu là un grand moment en carrière.
Exact. C'est sûr que j'ai gagné des gros tournois dans ma carrière, des tournois réguliers, là, on va parler de ce qu'on voit à la télévision là, en tant que tel, mais des compétitions, des événements. Il y en a de plus en plus. Je participe depuis quelques années au championnat du monde des par 3 aux Bermudes. C'est un autre, comme tu dis, un peu là, des événements, c'est ça, des événements parallèles au golf qui te permettent de vivre des choses incroyables. C'est peut-être parce que j'ai trop vécu du golf régulier. Comme on parle, comme on voit à la télévision, j'en ai peut-être trop vécu, puis que maintenant je suis plus à la recherche de choses un petit peu plus différentes, des choses qui me font vivre d'autres expériences. Donc c'est ça, il y en a de plus en plus. On en voit avec le circuit européen qui depuis quelques années arrive avec des événements là, des événements de 6 trous, puis des ils sortent un petit peu du cadre régulier de ce qu'on voit du golf. Puis je pense que c'est une belle avenue pour notre sport, pour mon sport, où ce que la traditionnelle 18 trous, comme on voit à la télévision, ça a encore sa place, mais je pense qu'on peut s'en aller ailleurs. On peut travailler sur d'autres choses, puis sortir de la boîte un petit peu du golf traditionnel.
À quel âge as-tu réalisé que tu avais du talent dans ce sport-là, bien que tu étais un autodidacte, puis que peut-être que tu peux commencer même à t'inscrire dans des tournois, puis espérer les gagner?
Je vais dire peut-être début vingtaine, 22, 23 ans. C'est à peu près dans ces âges-là où ce que je me suis dédié un petit peu plus au golf. Je me suis rendu compte que j'ai commencé à jouer à 4 ans. J'avais toujours eu de la facilité à jouer au golf. Ça avait toujours été un naturel. Je suis bon pas mal dans tous les sports. Mais sans mettre vraiment d'effort au golf, j'y allais là pour participer. J'allais là avec mes amis. C'était plus du social pour moi, puis d'un petit peu de compétition. Pour me rendre jusqu'en début vingtaine, puis mes premières années en tant que professionnel de golf sur le circuit des adjoints. Donc encore là, sans mettre trop d'efforts, je réussissais à compétitionner contre les meilleurs. Pour me ramasser à peu près là, 22-23 ans, où ce que j'ai réfléchi sur ce que j'avais accompli, puis ce que je voulais faire dans les prochaines années, pour me rendre compte que sans mettre d'efforts, je compétitionnais avec les meilleurs. Puis instinctivement, je me suis dit, on va essayer ça quelques années. Je vais mettre des efforts. Je vais des choses que j'avais jamais vraiment faites. Mettre de la pratique, être plus discipliné, plus méthodique dans ma pratique. Vraiment là, essayer de trouver les faiblesses que j'avais dans mon jeu. Puis à partir de là, mon jeu s'est mis à s'améliorer. Puis j'ai vu vraiment une progression de ce côté-là. Puis ça a pris... j'avais beaucoup de choses encore à apprendre. C'est pour ça que ça a pris... Je suis un late bloomer. Je sais pas s'il y a un terme français pour ça, mais quelqu'un qui...
Éclosion tardive.
Éclosion tardive, exact. Donc ça a pris beaucoup d'années avant de me mettre à gagner. Ça a été plus au début de la trentaine où c'est vraiment là que je suis un peu arrivé un peu plus dans le cercle des vainqueurs. Donc c'est pour ça. Ça a été une progression un petit peu lente de ce côté-là, mais ce qui m'a permis de, tu sais, au golf, on dit souvent que c'est un sport. Je suis chanceux d'être dans ce sport-là où plus vieux, tu peux continuer à performer très bien, même en début quarantaine. Puis c'est ce que j'ai fait dans les dernières années.
Crois-tu qu'il y en a qui viennent au monde avec un talent, là, un don de Dieu, un talent inné, là, Tiger Woods et Jack Nicklaus de ce monde, ou que c'est quelque chose qui se développe?
T'as les deux. Je crois que t'as les deux. T'as les exceptions. On va les appeler les exceptions. Les Sergio Garcia, les Tiger Woods, les Jordan Spieth. C'est vraiment des exceptions. C'est des gens qui ont... l'instinct, c'est des gens qui ont la maturité très tôt, la discipline de travail. Donc, ils ont tout ça, puis ça fait qu'ils ont l'entourage en plus de ça. Donc, ils se développent très tôt. Puis, tu as plusieurs joueurs, puis dans le monde du golf, c'est rempli de ça, des joueurs où ils vont se développer plus tard, puis ils vont, un peu comme la majorité des golfeurs, ils vont éprouver des difficultés à certaines étapes de leur développement, puis qui vont faire qu'ils vont arriver sur la scène du golf, la grande scène, un peu plus tard, mais qui peuvent avoir autant de succès que les superstars. Là.
Qui dominait le monde du golf québécois quand t'es arrivé dans le portrait là à la mi-vingtaine, Dave, puis que tu commençais à concurrencer et à challenger ces gars-là? Là?
Ben moi, j'ai grandi en admirant les Daniel Talbot, les Marc Giroir, les Serge Thivierge, les Yvan Beauchemin, les Rémi Bouchard. Tous ces gars-là, je les regardais puis je les admirais parce que on avait une grosse scène de golf au Québec. Très compétitive. Et puis, c'était très compétitif. Puis j'ai eu la chance de pouvoir jouer contre eux autres. J'ai eu la chance de pouvoir jouer. Moi, mon golfeur préféré, c'est Daniel Talbot. C'est mon idole. C'est quelqu'un qui, je pense, selon moi, puis c'est humblement que je le dis, que ça a été notre plus grand joueur de tous les temps au Québec. Je sais qu'il y en a eu d'autres aussi, Monsieur Bigra, Monsieur Adrien Bigra,
Bigra, oui.
Bigra, oui, qui était Un très bon joueur aussi, mais Daniel Talbot, je pense que c'est notre plus grand au Québec.
Pourquoi? Pourquoi tu trouvais que c'était lui le meilleur, Daniel? Et puis je pense que tu as même joué en équipe avec lui dans des tournois.
Oui, c'est ça, exact. Pourquoi je dis? Pour ses accomplissements. C'est un joueur qui, lorsque je vais, mais encore maintenant, je participe à des tournois, j'ai la chance d'évoluer avec des joueurs un petit peu plus vieux que moi encore, puis qui ont eu la chance, eux autres, de compétitionner contre Daniel Talbot lorsqu'il était plus jeune. Puis c'est toujours unanime que c'était un grand compétiteur niveau PGA Tour. C'est un joueur qui aurait pu facilement participer sur le PGA Tour régulièrement. Donc, toutes ses performances, c'est notre plus grand au Québec. Puis, comme tu dis, ben j'ai eu la chance, le privilège de pouvoir jouer en équipe avec. J'ai jamais été aussi nerveux que ça dans toutes mes expériences de golf. Le premier trou, je me souviens, je vais toujours me souvenir, à Bromont, premier trou qu'on partait ensemble, la première ronde, je tremblais, j'étais sur le départ, puis je tremblais pas pour le tournoi, je tremblais parce que j'étais en équipe avec Daniel Talbot, qui était là, qui me regardait, puis moi, je trouvais qu'il doit me juger. Et puis... c'est ça, je vais toujours m'en souvenir à quel point j'étais nerveux, puis ça m'a pris plusieurs trous pour me calmer un petit peu, me dire, regarde, je suis en équipe avec, donc accepte-le, puis deal avec ça, mais c'était une super expérience.
Dave Lévesque est notre invité, un des meilleurs golfeurs au pays, qui fait aussi partie du conseil d'administration de la PGA Canada. Je faisais allusion au fait que tu avais affronté beaucoup d'adversités dans ta carrière de golfeur et dans ta vie, notamment un cancer tel qu'il s'est inscrit sur ton compte Twitter, survivant du cancer. Dave, j'aimerais ça que tu partages cette tranche de vie quand même qui a été très marquante pour toi et ta famille. Au retour de la pause. On revient tout de suite.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois Rencontre.
De retour avec notre invité cette semaine, Dave Lévesque, l'un des meilleurs golfeurs au pays. Dave, s'il y a un sport où quand on tente de s'améliorer, ça peut devenir frustrant, c'est bel et bien le golf, parce que tu peux pas blâmer ton coéquipier, tu peux pas blâmer grand-chose d'autre que toi. Bon, tu peux toujours t'en prendre à ton équipement une fois de temps en temps, mais est-ce que c'est un processus douloureux d'essayer de devenir un meilleur joueur de golf? As-tu des moments de découragement dans ta carrière?
Mon Dieu, je commence où? Oui, absolument. C'est ce qui m'a rendu meilleur golfeur, c'est que j'ai passé au travers de ça. Puis c'est certain, là, de mes années sur on appelait ça le Canadian Tour, lorsque je vais mettre ça à peu près début des années 2000 jusqu'à 2006-2007, ça a été pour moi des grosses années d'apprentissage. Ça a été des années où ce que j'ai appris à me découvrir, à comprendre un peu mon corps, comment il fonctionnait sous pression, comment voyager, comment jouer sur des terrains, des types de gazon que j'avais jamais expérimenté contre des joueurs internationaux. Donc c'était beaucoup d'apprentissage, mais ça a amené aussi beaucoup de frustration, beaucoup de moments aussi là de, je mettrais pas ça de la dépression parce que c'était pas heureusement puis. Mais ça a été...
Du découragement?
Découragement. Là, de retourner à la chambre d'hôtel là, puis dire, mon Dieu, pourquoi je fais ça dans la vie? Là? Pourquoi je fais pas d'autre chose? Puis de pleurer, puis de trouver ça dur. Puis de... Donc, ça a été des années d'apprentissage, mais c'est ça, on parle de golf, là. C'est ça le golf, c'est d'apprendre à se découvrir, comprendre qu'est-ce qu'on fait pas bien, puis qu'est-ce qu'on a fait de bien qui a fonctionné. Donc, c'est de beaucoup d'apprendre à tout un peu gérer ça, et puis de progresser avec ça. C'est sûr que le golf, c'est un sport assez sadique pour ça, où ce que tu étais le seul responsable de tes actes. Tu peux pas blâmer personne. C'est un rebond de ta balle du mauvais côté. Ben si tu regardes honnêtement, ben il y a peut-être ce coup-là a été à gauche puis il aurait pas fallu, mais tous les bonbons que tu as eu dans ta carrière, ben c'est du 50-50. Donc tu peux pas t'acharner à ce que tu contrôles pas. Donc t'es le seul responsable, puis t'as personne d'autre à blâmer, puis s'il y a des choses qui t'ont dérangé par les autres compétiteurs ou les spectateurs, des choses de même, ben c'est toi que ça a dérangé, puis t'as juste à trouver une façon de dealer avec ça. Je me souviens d'une période où ce que mes parents avaient arrêté de venir me voir parce qu'ils se rendaient compte. Ça a été dans les années où j'ai commencé à m'améliorer, puis mes parents ont commencé à aimer ça, venir me suivre. Certains tournois qui se présentaient, puis qui venaient me suivre. Et puis, à chaque fois que des gens, je vais dire mes parents, mais aussi des gens qui me tenaient à cœur, à chaque fois que j'avais des gens qui venaient me suivre, qui me tenaient à cœur, j'essayais d'en faire plus, j'essayais de les impressionner. Et puis ça finissait toujours mal. À chaque fois là, ça jouais pas un beau tournoi, puis j'avais pas des bons résultats. Puis quand que ces personnes-là étaient pas là, mais mes résultats étaient meilleurs. Puis mes parents, pour une séquence, avaient arrêté de venir me voir. Ils disaient, bon, regarde, ils me disaient pas, puis ils voulaient pas me le dire, mais c'était à cause de ça. Et puis, je me suis acharné. J'ai dit non, vous avez pas, absolument pas. Continuez à venir, c'est mon problème, puis c'est à moi à surmonter mon approche mentale de ce côté-là. Puis heureusement, j'ai vraiment amélioré ça pour en venir à être capable de gagner des tournois pendant qu'ils étaient là, pendant que les joueurs qui venaient à cœur venaient me suivre. Puis c'est ça. Donc, c'est tout un processus. On parle souvent là, à haut niveau sur le PGA Tour, c'est 80% mental. C'est un sport très cérébral. C'est un sport qui te demande beaucoup de gérer tes pensées, contrôler tes pensées. Donc, c'est tout de ce côté-là où ce que à haut niveau, où tu peux faire une grosse différence, c'est de gérer ça, là.
Est-ce que tu as touché à un moment donné le fond du baril financièrement aussi? C'est une pression. Je sais pas si tu essayais d'en vivre dans ces années-là, alors que tu essayais d'améliorer la qualité de ton golf. Mais là, la pression vient de tous les bords. Puis, tu sais, contrairement peut-être à un boxeur qui, pendant toute la campagne de promotion d'un combat, disait « je suis le meilleur au monde, m'a te battre ». Tu sais, au golf, c'est pas le genre de discours qu'un golfeur va tenir. Mais en même temps, comment tu fais pour garder ta confiance? Est-ce que tu dis « je suis bon », mais il doit y avoir des voix négatives dans ta tête qui disent que t'es pas assez bon également, hein?
Ouais, absolument. Mon approche a toujours été un peu l'approche du je me prépare au mieux, je me prépare au meilleur de mes capacités, mais je suis prêt aussi au pire. Je vais me préparer au cas où ça aille mal sur le terrain, au cas où c'est sûr que j'arrive avec confiance sur le départ du 1, puis j'espère que mon premier coup soit en plein milieu de l'allée, puis que mon deuxième coup soit tout près du drapeau, puis je commence mon premier trou avec un birdie. Mais ça se peut aussi que ma drive au 1, mon coup de départ soit 1 000 à gauche dans le bois, puis je retrouve pas ma balle, puis que je parte mon premier trou avec un double. Puis ça, c'est faut être prêt à ça, faut être prêt à passer au travers de ça. Donc, c'est d'espérer le meilleur, mais d'être prêt au pire aussi. Puis c'est sûr que quand tu dis d'avoir touché le fond du baril, c'est certain que j'ai dormi dans mon auto, j'ai tout fait ça. Puis avoir d'argent, puis de me demander comment j'allais faire pour me rendre à ma prochaine étape de tournoi. Donc
t'étais où, là? Raconte-moi ça, là, un épisode du genre. Là. T'es où là, dans ton auto là, à penser puis à essayer de graffiner pour gagner un tournoi? Là. Fais-nous ta carte postale un petit peu d'un épisode de même dans ta carrière.
OK, c'était au début de ma carrière. J'étais à ce temps-là encore à Québec. Et puis, on va mettre ça régionalement. Je m'en ai joué un tournoi ici à Montréal. Et puis... je peux pas croire que je vais compter ça, mais je m'en ai joint un tournoi ici à Montréal. Je pense que c'était dans le coin de Termonde, si je me trompe pas, peut-être l'Assomption, le club de golf de l'Assomption. Et puis j'avais plus d'argent, j'avais pas de l'argent pour me payer un hôtel. Il me restait à peu près 50$, c'était tout. Dans ce temps-là, tu sais, c'est ça. Là, pas les cartes de crédit. C'était début vingtaine, je touchais pas à ça. Donc c'était l'argent que t'avais, c'était l'argent que t'avais. Et puis, mon raisonnement de jeune stupide était qu'il me reste 50$. J'ai une chance d'aller au casino. Il y avait le casino de Montréal venait d'être construit. Mais j'ai dit, je vais aller essayer d'en faire un petit peu plus pour réussir à peut-être me payer un hôtel puis me payer un bon souper. Et puis, comme tu peux penser, le résultat final a été que je suis ressorti du casino à peu près... on va dire 30 minutes plus tard avec plus une scène du tout. Donc, ça a été direction, stationnement, club de golf, l'Assomption, puis d'attendre que le jour se lève, puis partir sur le départ du 1 en espérant que... Puis en réalité, j'avais bien fait ce tournoi-là, donc c'est ça, ça avait été quand même pas si pire, mais c'est des choses que... C'est ça.
T'es parti avec un chèque, mais la banque est fermée le dimanche.
Ouais, ça prend des amis, c'est ça. Ça prend des bons chums qui te fassent confiance que tu leur donnes leur argent.
Le joueur de golf Dave Lévesque est notre invité cette semaine en entrevue. J'espère que vous passez de bons moments avec nous. On est de retour dans un instant après la pause.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois Rencontre.
De retour avec notre invité cette semaine, l'un des meilleurs joueurs au pays au cours des 10 dernières années, Dave Lévesque. Dave, où est-ce que tu en es dans ta vie, dans ta carrière, quand tu apprends que malheureusement, tu es atteint d'un cancer, Dave?
J'étais sur un gros momentum. C'était en 2003. J'ai commencé à jouer le Canadian Tour début des années 2000. Et puis, j'étais chanceux à mes débuts. J'avais eu des commanditaires, communication démo. J'ai Jacques Tanguay à Québec qui me donnait des gros coups de main. Un paquet de monde. Puis, mes deux premières années sur le Canadian Tour étaient des années d'apprentissage. J'avais quand même des bons résultats, puis j'avais une belle progression. En 2003, je me ramasse dans une situation où ce que je réussis à à conclure une entente côté commandite qui était idéale pour moi, qui me garantissait un salaire à tous les mois qui couvrait la majorité de mes dépenses. Et puis, je me souviens le jour où ce qu'on avait signé ce contrat-là, les épaules, je me sentais léger. Bon, finalement, là, je suis en train de puis les résultats augmentaient, puis je débute ma saison. Je suis au Texas, dans le coin de Austin, au Texas, dans mes rondes de pratique. Et puis, je sens les symptômes. C'est un cancer des testicules que j'ai eu, cancer du testicule droit. Et puis, ma conjointe, qui est toujours ma conjointe présentement, Marie-Josée Dallaire, avait étudié un peu dans le domaine médical. Donc, elle connaissait un petit peu avait des connaissances de ce côté-là. Puis j'ai décrit un petit peu ma testicule droit, pour ceux qui savent pas, là, un cancer du testicule, ça touche beaucoup des jeunes hommes. La testicule devient un petit peu plus grosse, elle devient dure, puis lorsque tu la pinces, tu la squeezes, ça fait pas mal. C'est un peu ça, tu sais, habituellement, on le sait tous les hommes, là, si tu serres un petit peu une testicule, mais c'est sensible, c'est douloureux. Puis c'est ça que je trouvais drôle. Je me dis, je comprends pas ça, ma testicule droite est plus grosse. Puis ça a pas été long que ma conjointe a fait le lien tout de suite avec le cancer du testicule. Ben, tu sais, quand elle survient, là, faudrait que tu reviennes le plus tôt possible. Puis là, c'est là que le verdict a tombé, puis que les traitements, puis ça m'a mis sur le carreau pendant un petit bout de temps. J'étais chanceux cette année-là, mais mes commanditaires, ceux qui le contrat ont accepté quand même de me soutenir, parce que là, je me ramassais sans revenu, sans rien. Et puis, c'est ça. Mais ça a été un gros recul. Après ça, là, ça...
Mais là, t'es au Texas, quand tu téléphones, parce que là, je comprends que c'était par téléphone que tu discutes avec ta blonde, qu'il y a des connaissances qui disent « Wow, viens ». Là, t'arrêtes tout ça là ou...
Je fais mon tournoi. Je fais mon tournoi, mais c'est sûr que j'avais pas la tête là, parce que là, je savais un peu ce qui s'en venait, là. Puis tu sais pas au juste à quel point c'est sévère à ce moment-là. Puis
comment t'as réagi quand que t'es revenu ici puis que le diagnostic a confirmé que c'était bel et bien ça?
C'est peut-être mon côté batailleur, fonceur, peur de rien. J'ai passé au travers de ça, honnêtement, là, mentalement. Je vais dire assez facilement. Je pense que mon entourage, il y a des gens dans mon entourage qui ont trouvé ça un petit peu plus difficile. Moi, j'ai toujours été positif un peu de ce côté-là, puis de l'épreuve que j'avais affrontée. Puis je trouvais que c'était juste une épreuve de plus. Ça faisait déjà plusieurs années que je me battais contre la planète entière au golf, que je me démenais à essayer de m'améliorer. Puis j'ai juste vu ça comme un combat de plus à accomplir. Puis heureusement, mais je suis encore ici, puis tout s'est bien passé, puis je suis en rémission. Puis c'est sûr que le cancer du testicule, c'est pas un cancer qui... C'est un cancer que les taux de guérison sont quand même assez élevés. Donc, j'ai été chanceux de ce côté-là. Mais à partir de là, quelques années plus tard, c'est ce qui a fait que je suis devenu un meilleur golfeur. C'est d'avoir affronté un cancer. Ça remet tout en perspective. Ça, à partir de là, ben moi, un trois potes ou une coupure manquée ou faire un bogey ou quelque chose de même, ben, ça n'a plus la même signification. C'est plus ça qui est grave dans la vie là. Puis avant mon cancer, ben c'était des choses qui c'était des choses, tu sais, tu deviens très absorbé. Le sport, le golf, c'est un sport excessivement égoïste. Et puis ça a juste justement là tout remoulé un petit peu ma vision, qui j'étais, la vision que j'avais de ma place sur la terre, ma place par rapport à ma famille, ces choses-là. Donc, ça m'a rendu une meilleure personne, donc un meilleur golfeur, absolument.
C'est vraiment intéressant tout ce que tu nous partages là. C'est que même si tu as réagi en ce sens que tu n'as pas paniqué, si je décode bien, tu te dis « je vais avoir une attitude positive », tu étais fait comme ça, il reste que ça a provoqué des gros bouleversements, là, une grosse introspection. Là.
Absolument. C'est là que je me suis rendu compte que la chose la plus importante dans la vie, c'est la famille, c'est les gens qui t'entourent, c'est les gens que t'aimes puis qui t'aiment. Depuis ce temps-là, mon ambition d'être un professionnel sur le PGA Tour, ça a changé. Je suis capable d'apprécier le talent de jeu, les accomplissements que ces joueurs-là nous démontrent tournoi à tournoi à télévision. Mais c'est pas une vie que je voudrais vivre. Je le sais pour avoir vécu cette vie-là. Le golf, comme j'ai dit, c'est un sport excessivement, faut que tu sois excessivement égoïste. C'est un sport accaparant, c'est un sport qui demande en termes d'heures, c'est des blocs d'heures, une ronde de golf c'est 5 heures, donc faut que tu pratiques, tes journées de pratique c'est des 5-6 heures, plus ton entraînement physique, plus tout ce que ça l'inclut.
Ta vie tourne autour de ton sport, puis pour les gens qui sont autour de toi également, là,
exact.
C'est ta game qui compte, puis t'améliorer, puis le reste, ben ça va passer deuxième.
Mentalement, vu que c'est un sport cérébral, c'est que t'es toujours à penser à ça pour quand tu fais ça uniquement de la compétition. Donc, je le sais, puis j'en vis pas les meilleurs joueurs au monde par rapport à leur vie familiale. Je les en vis tellement pas. Je sais que même quand ils sont physiquement à la maison, je sais que mentalement, ils sont pas là. Je sais tout le nombre d'heures qui sont amenées à aller sur le parcours, c'est une vie individuelle, c'est une vie très égoïste.
Ça t'a fait reconsidérer beaucoup de choses, donc.
Absolument.
Et bien que t'as pas reconsidéré ton amour pour le golf, t'as repositionné ta façon de l'approcher puis de l'aborder puis tes objectifs aussi.
Absolument, oui. Ben oui. Mes objectifs, c'est sûr, j'aime ça compétitionner, mais je suis pas prêt à me départir de ma famille pour une longue période de temps, puis c'est rendu important pour moi, puis je pense que c'est la vie.
À ce moment-là, t'avais pas eu le bonheur d'avoir un enfant avec ta conjointe quand ça s'est arrivé, t'étais pas parent encore, hein?
Non,
pas parent encore. Est-ce que t'as douté de pouvoir le devenir après un cancer du testicule?
Ben absolument, ça faisait partie des questions un peu là, lorsqu'on dans le processus de guérison, à savoir au juste là, l'opération, il m'a enlevé la testicule de droite, mais après ça, l'autre, elle va-tu fonctionner? Elle va-tu être affectée par les traitements que j'ai eus, puis ces choses-là? Donc c'est toutes des questions, un processus qu'on a mis en branle, puis de savoir un peu comment on allait pouvoir planifier notre avenir de ce côté-là. Puis on a été excessivement chanceux. Ça a pris quelques reprises pour réussir finalement à avoir un enfant. Zach Alexandre, notre enfant qu'on a eu en 2010. Et puis on est excessivement chanceux. On a un bon petit bonhomme.
6-7 ans après le cancer?
Oui, c'est ça, exact. Donc,
comment vous avez réagi quand vous avez eu le test?
Oh mon Dieu, c'est la plus belle chose au monde. C'est ça, c'est de quoi qu'on l'a eu les deux. Moi, j'avais 35 ans environ, 37 ans. Et puis, c'est ça, on l'a eu plus sur le tard. Ça fait que je pense qu'on a pu l'apprécier encore plus d'avoir ça. Puis ça a été, jusqu'à ce jour-là, là, c'est notre plus belle, mon plus beau cadeau au monde.
Ça a fait de toi, tu l'as dit tout à l'heure, un meilleur golfeur. Et je devine aussi probablement une meilleure personne, sans juger de la personne que t'étais avant.
Ouais.
Tu sais, c'est drôle à dire, puis j'entends souvent ça. J'ai le privilège de faire quand même des entrevues depuis des années. Ils disent, tu sais, ça change une vie quand t'as le privilège de pouvoir passer au travers. Ça a changé ta vie, ça.
Absolument, absolument. Pour plein de choses. Passer, puis je l'exagère, mais d'être un petit chialeux qui chiale sur tout. Puis une fois t'as passé ça, ben là il y a plus rien, c'est pas grave. La majorité des choses qui se passent maintenant, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Puis d'accepter plus facilement
t'as jugé celui que t'étais un peu. C'est comme quand t'as réfléchi sur celui que t'étais, t'aimais pas tout.
Ouais, absolument. Ouais.
T'as dit il faut que ça, j'ai envie de changer ça.
Ouais, je pense pas que c'est un processus aussi clair que ça de dire. Je veux changer la personne que j'étais. Je pense que c'est un processus qui arrive naturellement, puis ta personnalité évolue puis change avec ça. Donc c'était pas une décision volontaire, mais c'est plus une conséquence de d'avoir passé ce processus-là.
Ça s'installe tout doucement à un moment donné, puis et voilà qui tu es aujourd'hui. Et ça a fait en sorte que t'as joué ton meilleur golf après tout ça, hein? Parce que je pense qu'une de tes meilleures saisons en carrière, qu'est-ce que tu identifierais comme ta meilleure année en carrière et pourquoi?
Je vais dire plus récemment, 2014, ça a été l'année où j'ai été élu meilleur joueur au Canada, joueur de l'année au Canada, gagné un gros championnat national, beaucoup de victoires aussi au Québec cette année-là. Donc ça a été le côté victoire, côté monétaire, ça a été ma plus grosse année. C'est une accumulation d'expérience, je suis quelqu'un je m'entraîne encore physiquement, donc je prends soin de mon corps. Et puis je suis chanceux, même à 43 ans, je suis encore physiquement en grande forme. Autant que je l'étais début vingtaine. Et puis, c'est ça, c'est une accumulation de peu tout, expérience, se connaître. Le golf, c'est ça, c'est de s'affronter. Le jeu du golf, pourquoi que c'est un jeu aussi addictif? Ça se dit-tu en français?
Oui,
bon, c'est un sport qui t'amène à te confronter, te regarder devant un miroir, dire, ben, regarde, c'est moi, je m'affronte. Je vais devoir travailler sur ma patience, je vais devoir travailler sur ma volonté, je vais devoir travailler sur mon courage. C'est plein de petits traits de personnalité que tu vas devoir affronter au cours d'une ronde de golf. Et puis, c'est la beauté, je pense, du jeu du golf.
43 ans seulement. Est-ce que, comme je l'ai entendu de la bouche de bien des golfeurs québécois qui ont tenté de percer la PGA, mais sans succès, est-ce que tu regardes la cinquantaine comme une possibilité d'ouverture pour le Champions Tour, le circuit senior américain?
Absolument pas, du tout. J'enlève rien à ceux qui ont cette aspiration-là de percer le circuit senior. Mon expérience, ma connaissance du monde du golf est que si t'as pas réussi sur le circuit régulier, t'as pas réussi à atteindre le circuit régulier, t'as pas passé près d'atteindre le circuit régulier du PGA Tour, t'as aucune chance de pouvoir penser réussir sur le circuit des champions, le circuit senior, qui est le circuit, selon moi, le plus contingenté au monde, le circuit le plus dur à percer au monde. Puis c'est juste la façon que leur plan d'affaires, leur modèle d'affaires est construit. Le circuit senior, c'est un circuit, ils appellent ça le circuit des champions parce qu'ils...
Pour mettre en valeur les anciens champions.
Ils veulent que les anciens champions du PGA Tour s'en viennent là. Donc, sans rien m'enlever, un Dave Lévesque qui réussit à avoir sa carte sur le circuit des champions, autre que une partie du Québec ici qui me connaissent, le Champions Tour n'a rien à gagner que Dave Lévesque soit sur leur circuit. Les Américains, il n'y a pas un Américain qui me connaît. Donc, ça se traduirait pas en termes de dollars de leur côté. Donc, c'est ça. Puis, c'est de quoi je suis en paix. Je suis en paix avec ça. J'ai eu une belle carrière. Je suis chanceux de ce que j'ai accompli. Comme je disais au début de l'entrevue, je viens de loin. Je trouve que j'ai réussi à quand même aller assez loin pour d'où je suis parti. Et puis, je suis vraiment en paix avec tout ça.
Bien, certainement, tu as vraiment raison d'être fier. Il nous reste encore de bonnes minutes à passer ensemble. On va faire une pause. Dave Lévesque est notre invité. On revient pour la conclusion de cet entretien.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Voilà, de retour pour la conclusion de notre entretien cette semaine avec mon invité Dave Lévesque, l'un des meilleurs golfeurs au pays. Dave, tu l'as dit, 2014, tu as été couronné meilleur golfeur au Canada. Tu fais aussi partie, d'un point de vue administratif, du conseil d'administration de la PGA Canada. On va retrouver la PGA Québec bientôt, qui était un petit peu inactive là, depuis quelques années. Quel est l'état de santé du golf au Québec, golf professionnel, puis des clubs de golf, Dave?
L'état de santé est quand même stable. Il y a eu un petit ralentissement là. Il y a un effet, l'effet Tiger Woods, à partir des fins des années 90, début 2000, a eu un gros boom du côté du golf, a amené beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de nouveaux participants au golf là. On va mettre ça quasiment mondialement. Et puis il y a un pourcentage de cette clientèle-là qui n'ont pas tout à fait accroché, parce que c'est des gens, ça a amené des nouvelles personnes, puis c'est bon, mais on va essayer le golf. Puis il y a eu une croissance de ce côté-là, puis c'était une croissance un peu artificielle. Et puis là, tout ce qu'on voit, c'est un peu un réajustement de cette explosion-là qu'on a eu, l'effet Tiger Woods.
Et des fermetures de terrain.
Ouais, c'est ça. Ben, il y a eu un peu une surévaluation un peu de la clientèle du golf. Une mauvaise évaluation de ce que l'effet, un autre effet, les baby boomers allaient faire à leur retraite. On nous parlait, moi, je me souviens, là, je vais retourner encore dans les années 90. On avait des séminaires ou des conférences qui nous parlaient un peu là, les prochaines années du golf, puis qu'ils n'arrêtaient pas de nous dire que les baby boomers à leur retraite allaient envahir les parcours de golf, que préparez-vous, là, c'est eux autres qui vont vous amener l'argent, puis tout ça. Puis, en réalité, ça s'est pas produit. Puis je vais parler personnellement, mes parents sont l'exemple parfait de ça. Mon père, ma mère, Richard puis Michel, ils sont à leur retraite, ils sont mis à faire d'autres activités. Le camping, le vélo, le canot, plein d'autres activités. Ils ont continué à jouer au golf, mais c'est pas devenu leur sport unique ou ce qu'ils mettent la majorité de leur temps de retraite avec ça. Donc, ça a été un peu une mauvaise évaluation. On voit un autre effet de ça, puis on a souvent des discussions de ça au niveau des jeunes, des juniors, la participation des jeunes. Les terrains de golf se sont pas préparés à la relève. On s'est tellement fait dire dans l'industrie du golf de préparez-vous pour les bébés boomers, c'est eux autres qui vont vous faire vivre pendant une vingtaine, une trentaine d'années, puis ça va être votre vache à lait, tout ça. Mais que tout a été mis en fonction de ça, puis on a oublié la relève, on a oublié les jeunes, de leur faciliter, de leur permettre. Venez les jeunes, venez gratuitement, là. Ça nous fait plaisir. Un jeune de 14 ans là, qui accompagne ses parents. Viens, mon ami, viens jouer, viens t'amuser. On veut t'avoir, on veut que tu sois là pour plusieurs années. Viens découvrir notre sport. Donc, c'est un peu là que il y a encore des terrains qui sont un petit peu plus récalcitrants à embarquer dans cette démarche-là. Mais je pense que de plus en plus, la plupart des terrains de golf, l'industrie du golf comprend un peu l'erreur qui a été faite dans le passé puis essaie de corriger le tir. Hein.
Je sais pas si tu connais tous les jeunes bons golfeurs. On en a qui étudient aux États-Unis. Il y en a qui sont allés étudier aux États-Unis. Puis tu sais, vraiment des bons joueurs, là. On attend toujours le jour où on aura un petit peu comme au tennis, là, des talents locaux qui vont s'immiscer sur la scène mondiale. Sens-tu que ça va venir? Puis, tu sais, ça se commande pas, ça, là?
Non. Puis, je sens que ça s'en vient. Il y en a beaucoup de bons jeunes joueurs qui ont des bons potentiels là, dans les âges d'à peu près 19-20 ans. Moi, celui que je surveille beaucoup, c'est Hugo Bernard.
J'en entends beaucoup parler.
Exact. C'est un jeune que j'ai côtoyé, je vais l'appeler mon ami. C'est un ami pour moi. J'ai eu la chance de l'avoir comme cadet à ma dernière participation à Montréal au Canadian Open, au Royal Montréal. C'était lui que j'avais sélectionné comme mon cadet pour m'accompagner parce que je voulais y montrer un petit peu l'ambiance. Je voulais le mettre dans le bain un petit peu du PGA Tour à l'intérieur des cordes. Je pense que ça a été une belle expérience pour lui. Puis il y a encore une belle progression. C'est un bon gaucher, très puissant, des bonnes mains, un bon jeu court. Donc c'est un jeune qui va être à surveiller dans les prochaines années. Mais on en a. Mais faut être patient. Souvent l'industrie du golf attend des superstars à la Brooke Henderson. Du côté des hommes, je pense qu'il va falloir y aller une étape à la fois. J'espère que Hugo Bernard va être une superstar, mais peut-être que le premier va être un joueur qui va réussir à gagner sa carte. Faire un an ou deux sur le PGA Tour, tourner dans le web pour mettre la place pour que le prochain réussisse à aller un petit peu plus loin. Je pense qu'il faudrait y aller un petit peu plus progressif, mais je pense que ça va venir. Parce que notre dernier Québécois, ça a été Jules Huot dans les années 40. Donc, je pense qu'on est dû, là.
On est dû, c'est le cas de le dire. Maintenant, toi, est-ce que tu vas connaître une grosse année 2018? Comme tu me le disais, en dehors des ondes, t'es pas au cœur de ta carrière, mais comment t'envisages la saison 2018?
Ouais, je fais encore un peu de compétition. C'est sûr que, comme je te disais, je suis à la fin de mon projet. Maintenant, je suis plus impliqué au niveau administratif, au niveau de club. C'est plus ce qui me passionne, l'enseignement. Je suis rendu à l'étape, justement, là, de redonner. Je trouve que c'est...
T'as envie d'aider l'industrie?
Oui.
Les golfeurs, puis exact. Les clubs?
Ouais. Ouais. C'est pour ça, comme tu disais, là, je suis sur directeur national de la PGA du Canada. Donc, je suis le conseil d'administration de la PGA du Canada. La zone du Québec, ben, je suis impliqué pour la relance de l'association des pros au Québec, la PGA du Québec. On est sur le bord, là, de relancer ça. Je vais siéger aussi sur le conseil d'administration de Golf Québec. Donc, je suis impliqué à différents niveaux. En plus de ça, ben c'est sûr que je suis au Château Beaumont depuis ça va être ma deuxième année avec Martin Ducharme au Château Beaumont. C'est un endroit magnifique, puis je suis super content d'être là. C'est une belle expérience comme professionnel en titre. Beaucoup d'enseignement, beaucoup de corporatifs, et puis il y a beaucoup de développement d'affaires à faire de ce côté-là. Donc ça, c'est les choses qui me passionnent. Puis je pense que comme on parlait du cancer, puis de ma place sur la planète, ma place dans la vie, puis je suis rendu à l'étape là vraiment de redonner, puis de faire partager mon expérience, puis de tout ce que j'ai appris, puis je suis rendu là. Donc c'est avec grand plaisir là que vous pouvez venir me voir à Château-Beaumont.
Un golfeur aussi talentueux que toi, Dave Lecant, t'es dans une position d'enseigner. Est-ce qu'il y a des fois que c'est difficile? Tu sais, quand tu l'as un peu naturellement, là, de transmettre ça à quelqu'un qui en arrache, là, est-ce que c'est pénible?
Exact. Mais c'est une bonne question. Il y a des, ça dépend des joueurs de golf. Il y a des bons joueurs de golf qui sont absolument incapables d'enseigner. Puis c'est souvent des naturels, des personnes où ce que, des golfeurs où ce qu'ils l'ont, ils ont toujours été bons, ils ont toujours été naturels, ça a été facile, qu'ils ont eu des enseignants, puis ces choses-là. Moi, en étant un autodidacte, tout m'est arrivé. J'ai eu les yips sur les yips, c'est les mains qui tremblent. J'ai eu ça sur le chipping, j'ai eu ça sur le putting. J'ai eu tous les problèmes que tu peux imaginer au golf. Je les ai vécus. Je sais c'est quoi.
Dis-moi pas que t'as déjà shanké un petit chip pas loin du green, là.
Ben, mais-en.
Ah oui?
Mais-en,
ah, pas, ça me rassure, ça.
C'est que c'est ce qui fait de moi le golfeur le plus normal, le plus régulier que tu peux pas avoir. Je comprends tellement les gens qui viennent me voir. Je suis capable de me mettre dans leur peau. Puis c'est ce qui fait de moi, je pense, un bon professeur de golf. C'est que c'est des choses que j'ai appris à surmonter, j'ai appris à comprendre. Donc, c'est ça.
T'as un élan orthodoxe aussi, hein?
Oui, puis ça, pour ceux qui veulent savoir...
T'as une pause dans ton élan. Essaye de nous faire voir les gens. Évidemment, on est à la radio, il y a des limites, mais...
Ouais, ben si vous regardez un petit peu sur le PGA Tour, Hideki Matsuyama, qui est un Asiatique, qui dans les meilleurs au monde, il fait une petite pause au sommet. Ça ressemble sensiblement à ça. Là. Ma pause, moi, est un petit peu plus longue même. Donc, j'arrive au sommet, là, mon élan arrière, lorsque j'arrive en haut, ben je vais prendre une petite pause, je vais... prendre mes appuis comme faut, puis ensuite de ça, prêt à attaquer la balle. C'est un peu mon élan, mais souvent le monde, c'est pas ce que j'enseigne. Là. Souvent les gens ont peur que, vu que je fais une pause dans mon élan, c'est ce que j'enseigne, puis du tout. Donc, c'est ça.
Dave, je te remercie beaucoup pour cet entretien. J'ai passé une heure vraiment intéressante. Au plaisir de se retrouver sur un terrain de golf à Bromont ou ailleurs au Québec, dès que la neige va fondre, bien sûr. Merci beaucoup, Dave.
Merci beaucoup. Ça a fait plaisir, Mario. Merci.
Ça a été un plaisir de te recevoir. Dave Lévesque était donc notre invité. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et bien sûr, entre-temps, aux amateurs de sport, dès lundi, 18h30.